Tech & Co, la quotidienne, décryptage.
Et avec nous, Geoffrey Célestin-Urbain, bonsoir.
Bonsoir.
Geoffrey, merci d'être avec nous. Vous êtes président du Campus Cyber. Tiens, rappelez-nous en quelques mots, Campus Cyber. Alors, les Parisiens peuvent voir physiquement un campus aux portes de Paris, enfin à la Défense. Hein. Donc voilà, rappelez-nous le concept.
Ouais, lieu totem de la cybersécurité qui rassemble les principaux acteurs publics et privés de la cybersécurité française et européenne. Mm-hmm. Nous avons aussi quelques groupes allemands. Quartier d'affaires de la Défense, on a à peu près 250 entités publiques et privées qui font partie en fait de l'écosystème.
Qui ont leurs antennes, voire leurs sièges quand c'est les plus petites entreprises.
Voilà, quand c'est les plus petites entreprises, des PME, des ETI aussi, on en a, qui ont leurs sièges, et puis des équipes cyber de grands groupes qui sont installées sur place, ainsi que des services de l'État, des associations, des organismes de recherche et des écoles aussi. Oui. On a des établissements d'enseignement.
Et puis, des campus qui se sont aussi, qui ont fait des petits en territoire.
Hein. Ouais, exactement. On en a 8 au total, hein, qui sont disséminés sur tout le territoire et avec lesquels on travaille en réseau. Histoire qu'une PME qui est installée en province ne se dise pas il faut que j'aille à Paris oui. pour trouver un certain nombre de prestations, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc on bosse tous ensemble, c'est ça la nouveauté.
Oui, et puis on voit les alertes cyber, les attaques cyber, c'est tous les jours, toutes les heures. Donc on voit évidemment quand on est en région, c'est important d'avoir un phare quelque part vers qui se guider quand on est. Parce qu'on sait combien d'ETI, de PME, voire même d'artisans se sont trouvés perdus quand ils ont c'est des ransomware et tout ça. Et donc avoir dans sa région une entité cyber bien identifiée qui saura guider les personnes, c'est quand même essentiel. Alors je regardais, janvier 2026, le Campus Cyber a dévoilé sa stratégie 2026-2028. En avril dernier, le Campus Cyber et les Campus Cyber territoriaux se dotent de leur première feuille de route commune. Voilà, c'était les dernières parutions. Et puis là, le Campus Cyber qui lance l'alerte sur les impacts de l'IA de Claude, d'Anthropique, Mythos et d'autres modèles frontières. Pourquoi cette prise de parole sur Mythos? Alors on sent, hein, on voit que partout les banquiers s'inquiètent, qu'ils soient français, européens, allemands, tout le monde s'inquiète de cette IA. Mais pourquoi le Campus Cyber a jugé nécessaire de sortir cette note justement sur cette IA?
Parce que le moment est grave, et donc on appelle notamment dans cette note en fait avec un petit jeu de mots, à démythifier Mythos en tant que tel, mais pas du tout à désacraliser ce qui se passe sur l'IA. Alors en fait, ce qui se passe sur Mythos, c'est le chat GPT 5.5, notamment cyber, qui a été sorti par OpenAI, c'est quelque chose d'assez prévisible. L'IA, c'est pas complètement une nouveauté dans le paysage cyber. Ce qui est une nouveauté en quelque sorte, c'est qu'aujourd'hui, on a des modèles qui ont un niveau de performance comparable à un expert humain, dans des temps extrêmement compressés, qui sont capables de réaliser des tâches extrêmement complexes en très très peu de temps, et qui sont capables de dérouler en fait toute une chaîne d'attaque de manière complètement automatisée, une chaîne d'attaque complexe. C'est notamment l'organisme d'évaluation des Britanniques de l'intelligence artificielle qui a déterminé que Mythos et ChatGPT 5.5 étaient capables d'être complètement autonomes sur une chaîne.
Et d'ailleurs, ils ont pu trouver des failles qu'on n'avait même pas vues depuis une vingtaine d'années.
Hein. On maintient quand même une certaine prudence parce que nous, on n'a pas eu accès au modèle.
Encore donc, une ça, fois, c'est quand même on le précaution. Dit aussi régulièrement, il y a quand même un peu un effet d'annonce parce que quand Anthropique a annoncé Claude, il a dit « Attendez, c'est tellement puissant, on va pas le mettre entre toutes les mains, on va aller voir les spécialistes de la cybersécurité, les Palo Alto, les Microsoft et tout ça, et on va d'abord voir avec eux. » Bon, il y a un effet un peu communication, mais quand même, on sait quand même que ça peut porter ce risque systémique. Le fait de sortir cette note, n'avez pas eu peur un peu de stresser un peu tout le monde? Ou alors c'est vraiment leur dire « Écoutez, là, on en rentre dans quelque chose de sérieux ?»
En fait, on a voulu donner des repères au maximum. On a été très sollicité juste après la sortie du modèle Mythos par des gens de l'écosystème qui nous disaient « Mais quelle est la voix du campus ?» Qu'en pense le campus en tant que, vous disiez phare tout à l'heure, en tant qu'expert avec une signature et une qualité et une légitimité? Donc, c'est parti de là. Et en fait, notre idée était de remettre un petit peu ça à plat avec les meilleurs experts de l'écosystème. Et donc, on fournit une analyse qui est aussi objective que possible. Et si ça nous conduit à tirer la sonnette d'alarme, c'est qu'il y a de fortes raisons de le faire. La sonnette d'alarme, elle est double, en fait. C'est un premier appel que, en fait, ça va arriver, sans doute beaucoup plus vite que prévu. Mm-hmm. Et donc, il faut que les organisations travaillent sur des scénarios de gestion de crise qui sont nettement durcis par rapport à ce qu'on prévoyait jusqu'à présent. Un scénario typique de gestion de crise après Mythos, c'est vous devez... en quelques heures seulement, réparer 20-30 vulnérabilités zero day, donc qui n'étaient pas du tout révélées au départ, que vous n'aviez pas en tête, et vous avez quelques heures pour le faire. Donc avec des chaînes de patch très
courtes, hein, parce que il y a déjà eu des failles qui ont été dévoilées, mais en général on avait quelques jours voire quelques semaines pour mettre tout ça, voire certaines mettaient même plusieurs mois avant d'être comblées.
Et quand vous regardez en fait la courbe qui mesure le temps moyen entre la sortie d'une vulnérabilité qui a été découverte et puis le moment où cette vulnérabilité est exploitée, on est passé de quelques années de lag en 2018 à maintenant pratiquement quelques jours. Donc en fait, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est un problème d'accélération du rythme et puis c'est un problème de masse aussi. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre probablement à un déluge de vulnérabilités de masse qui soit révélé dans plein de systèmes d'information.
Oui, parce que même s'il faut être un peu alerté techniquement, ces outils sont quand même à la portée d'ingénieurs, de techniciens qui n'ont pas forcément, des masters ou des doctorats pouvoir attaquer avec ces outils.
Ça abaisse la barrière technique en fait de réalisation d'une attaque cyber complexe. Ça la démocratise d'une certaine manière. Et déjà, les experts constatent une augmentation des attaques cyber qui sont réalisées avec de l'intelligence artificielle, à la fois par des groupes de cybercriminels classiques et puis par des États. Donc, ça n'est pas une fiction, c'est une réalité. Et l'arrivée des modèles frontières avec des performances nettement supérieures à celles qui étaient par le passé change assez radicalement la donne. Et donc, ça va forcer les organisations à pivoter assez rapidement et à durcir leur posture de gestion des risques.
Parce que pour vous, Geoffrey Célestin Urbain, donc président du Campus Cyber, les entreprises françaises sont... Alors, je mets les entreprises françaises de façon générale, mais évidemment, les grandes entreprises ont plusieurs dizaines de personnes dans leur service de cyber, mais si on parle des PME, des ETI, des artisans, ils sont sous-préparés à des attaques par IA qui sont d'une qualité quand même assez incroyable.
Alors, les attaques par l'IA, en fait, elles viennent souligner parfois le manque d'hygiène de base en matière de cybersécurité de tout un tas d'acteurs. Donc, c'est pas l'IA qui va créer un système de cybersécurité à deux vitesses ou à plusieurs vitesses. On l'a déjà d'une certaine manière, mais l'IA va accélérer le besoin de mettre un peu tout le monde à niveau. Mm-hmm. Et les grands groupes vont devoir aussi tirer leurs partenaires PME et ETI dans leur supply chain, dans leur chaîne de valeur logicielle et dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc, il va y avoir une nécessité encore plus forte de solidarité entre les grands groupes et les PME pour faire en sorte que le niveau augmente de manière homogène face à l'IA. Il n'y aurait pas eu l'IA, ce serait la même problématique, mais l'IA l'aggrave.
Oui, et l'IA l'aggrave et le rend beaucoup plus rapide. On a, jeudi, Donald Trump qui va rencontrer Xi Jinping. Ils vont parler... de beaucoup de choses, mais ils vont parler d'IA. Ils ont dit que ce serait l'un de leurs sujets forts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut penser cybersécurité aussi fort que quand on parle défense, quand on parle dissuasion nucléaire, quand on parle... Enfin, faut vraiment se dire... Alors, pas au niveau d'une entreprise, mais voilà, faut mettre ça à ce niveau-là quand on est un institut comme le Campus Cyber.
C'est un sujet éminemment politique qui va bien au-delà, d'ailleurs, des prérogatives ou des compétences du Campus Cyber, puisqu'on ne peut plus parler de cybersécurité sans IA. Et l'IA est un objet qui est éminemment géopolitique. Et on prend d'ailleurs dans l'analogie dans le papier qu'on a publié avec la dissuasion nucléaire. Est-ce qu'on accepterait une seconde que notre dissuasion nucléaire ne soit pas une chaîne complètement indépendante de puissance étrangère? Mais en matière d'intelligence artificielle, c'est un peu la même chose. Vu que l'IA va aller partout, y compris dans des domaines ultra sensibles comme l'énergie, mais aussi comme la cybersécurité, on ne devrait pas tolérer en Europe d'avoir une dépendance aussi forte au modèle américain. Oui. Donc c'est la deuxième phase du problème. C'est pas juste un problème de durcissement de la cybersécurité de tout le monde, c'est aussi un problème d'autonomie stratégique. Oui, où est l'IA souveraine européenne là-dessus?
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on a beaucoup d'acteurs, et en France notamment, beaucoup d'acteurs en cybersécurité, mais c'est vrai que cybersécurité IA, si on prend l'enveloppe, on se retourne vers les Américains ou vers les Chinois. Bien, merci Geoffrey Célestin Urbain d'être venu parler de tout ça. Je rappelle, vous êtes président du Campus Cyber, donc à l'origine de cette note, vous pouvez la retrouver sur le site du Campus Cyber, qui alerte justement sur cette IA Mythos. Vous en avez certainement entendu parler. Il ne faut pas se saturer, il ne faut pas se dire je suis saturé de toutes ces informations, un peu comme on voit aujourd'hui autour des virus. Non, il faut vraiment en faire attention, parce qu'on est tous des cibles, que l'on soit individu, que l'on soit artisan, que l'on soit PME ou grande entreprise. Merci d'être venu nous parler de tout ça.